9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Fabien Olicard.
Bonjour Fabien Olicard.
Bonjour.
Est-ce que vous croyez à la transmission de pensée ?
Ah non, j'y crois pas, mais je pense qu'on peut la simuler.
Voilà, on va pas la simuler. Merci d'être avec nous au téléphone. Cause coronavirus, faut-il le rappeler ? Vous êtes mentaliste, vous affinerez cette définition un peu plus tard. Vous êtes jeune, on n'est pas 40 ans, et pourtant vous avez déjà 1,5 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Vos vidéos sur Internet ont été vues 130 millions de fois. Et vous avez vendu les 2 tomes de vos 2 livres. Votre cerveau est extraordinaire, à 200 000 exemplaires, traduits dans 6 pays. Déjà, c'est pour situer. Votre spectacle Singularité est en tournée dans toute la France. Il va revenir au Zénith à Paris, ce sera le 20 novembre, donc on peut penser que les mesures de confinement seront passées. Entre-temps, que se passe-t-il pour vous ? La tournée continue ?
Alors la tournée, elle est suspendue, donc il fallait prendre la décision d'annuler les dates ou de les reporter, donc je les ai reportées. Ouais. Et puis, du coup, j'ai une grande masse de temps devant moi pour avancer sur d'autres projets plus créatifs qui devaient arriver plus tard. En fait, on se réorganise, hein, comme tout le monde. Il faut employer au mieux son temps et puis être un peu mobile, être un peu flexible, quoi.
Alors votre spectacle, c'est peu dire qu'il est mobile et flexible. C'est un mélange d'astrophysique et de mentalisme. D'abord, c'est quoi le mentalisme ? Vous commencez par ça d'ailleurs. Vous donnez la définition du mentalisme telle que vous la ressentez vous-même.
Oui, c'est ça. Comme il n'y a pas de définition légale, moi j'ai la mienne. Pour moi, c'est un grand sac fourre-tout dans lequel on va prendre des outils qui viennent du monde de la psychologie, de l'illusionnisme, de l'influence et de la mémoire, dans le but de bluffer les gens ou de les amener à se bluffer eux-mêmes, parce qu'on a tous le même cerveau. Mais ça veut dire que je suis autoproclamé, je ne suis pas spécialiste dans le sens où je n'ai pas fait des études de psychologie, par exemple. Mais par contre, je suis assez curieux pour m'être intéressé à plein de sujets et essayer de retirer tout ce qui m'intéresse dans cette discipline-là.
Dites donc, qu'est-ce que ce serait si vous aviez fait des études ? Vous commencez votre spectacle par de la graphologie, et puis un numéro absolument bluffant. Vous faites monter une fille sur scène, une inconnue, vous lui posez 3 questions sur son père, des questions très très faciles. Évidemment, elle répond oui aux 3 questions, et pendant qu'elle vous parle, je décris l'image pour nos auditeurs, vous écrivez quelque chose, vous retournez sur une grande feuille que personne ne voit, on écoute.
Imagine ton père comme s'il était ici, debout sur la scène. Je vais noter plein de détails sur lui au fur et à mesure, tu vas me dire quand j'ai bon ou pas. Quand j'imagine ton père, j'imagine quelqu'un avec des yeux... Ça, c'est bon ?
Oui.
Ok, donc, première affirmation correcte. Quelqu'un du sexe masculin ?
Oui.
Oui, elle aurait pu dire non, l'opération s'est même passée, on n'en sait rien. quelqu'un de plus âgé que toi également ?
Oui.
Ça part sur un sans faute, est-ce que ça te bluffe terriblement ?
Non.
Ouais, pas tant, ouais, d'accord, ok. J'ai quelque chose de personnel, presque intime, qui vient sur ton père. Je viens de l'écrire ici. Avant de le révéler, j'aimerais que tu nous le présentes. Comment s'appelle ton père, s'il te plaît ?
Laurent.
Et là, sur la feuille, vous avez écrit Laurent. Mais c'est quoi le truc ? Comment vous pouvez deviner que son papa s'appelle Laurent avec ces 3 questions banales ?
Ah oui, ça, ce passage du spectacle, il est essentiel et il me fait rire d'ailleurs chaque soir. Parce que comme j'ai tendance à expliquer comment je fais et à transmettre beaucoup d'informations, je me suis dit il faut un passage du spectacle où les gens se disent « Non, c'est pas possible, il a une complice parce que je vois pas
évidemment.
Comment il peut faire. »
Je me suis dit « Non, c'est pas possible. »
Oui, c'est ça. Et c'est ce moment-là du spectacle précis parce que évidemment je sais pas à l'avance qui va monter sur scène. Évidemment, tout ça est fait au hasard. Et évidemment, il y a une explication logique, rationnelle à ce passage-là du spectacle également et qui n'est pas de la recherche préalable sur toutes les personnes. Au moment où elle monte sur scène, je ne connais pas le prénom de son père à ce moment-là et on ne me transmet pas d'informations. Donc ça, c'est le moment où je rappelle un peu que j'ai beau transmettre les techniques au grand public, j'ai quand même 30 ans d'expérience et d'intéressement à ce domaine qui me permettent d'aller plus loin. Mais j'ai pris une résolution, c'est que dans le prochain spectacle, quand je réécrirai un spectacle, je donnerai les pistes pour comprendre ce numéro-là. En attendant, il va continuer de vous bluffer.
Mais vous donnez quand même certaines pistes. Vous demandez aux gens de penser très fort à Descartes et vous devez les deviner, ça marche. Et le plus fort, c'est que vous révélez une partie de votre technique. Ça s'appelle des tels. C'est quoi des tels ? D'abord, est-ce que je prononce bien ?
Oui.
C'est quoi des tels ?
Je ne suis pas sûr de prononcer mieux que vous. Ouais. Les tels, c'est un truc que les joueurs de poker connaissent très bien. C'est tout ce qui va se passer au niveau du non-verbal et du paraverbal et qui va pouvoir nous donner l'état émotionnel de la personne. C'est-à-dire qu'au poker, par exemple, si on voit quelqu'un qui se touche souvent le visage, ce n'est pas un tel, c'est une information. Mais si à un moment donné, il se touche plus souvent le visage ou moins souvent le visage que d'habitude, là, ça devient une information et c'est ça qu'on va appeler un tel. C'est tout ce qui va se passer, qui va être en rupture avec comment est la personne habituellement. Ça peut être la déglutition, ça peut être la manière qu'il a de se toucher, la manière de se comporter, la manière de bouger, la manière de crisper la mâchoire. Tout ça vont nous donner des informations sur un changement d'état émotionnel de la personne.
Oui, mais comment se fait-il qu'ensuite vous faites deviner un jeu de cartes? Il y a 52 cartes, quelqu'un pense à une carte, je dis n'importe quoi, le valet de cœur. Et de la manière dont il prononce cœur, carreau, vous devinez que c'est du cœur ou du carreau. C'est complètement fou. Comment vous faites? Et vous dites, tout le monde peut le faire.
Oui, et d'ailleurs, maintenant, tout le monde le fait dans le public. La version du spectacle, à l'attendu, aujourd'hui, c'est un numéro collectif et le public trouve en même temps que moi. Et j'adore ça parce que ça démontre que, pour le coup, c'est pas magique, qu'on peut tous y arriver si on a un petit guide de méthodologie et surtout qu'on prenne beaucoup d'attention. En réalité, quand par exemple, si la personne est une personne habituée à bluffer, elle va avoir tendance à prononcer un peu moins fort la carte à laquelle elle pense, parce qu'elle va cacher l'information. Si la personne n'a pas l'habitude de bluffer, elle va la dire un peu plus fort, parce que le fait d'y penser et de passer dessus, ça va augmenter le volume. Donc on voit comme ça les accroches, par exemple, quand ils disent rouge-noir, si la personne pense à une carte noire, en général, on entend rouge-noir, et on sent un noir un peu plus attaqué, on va dire.
Là où c'est complètement dingue, c'est que vous n'appliquez pas seulement votre savoir sur les gens qui sont dans votre public, mais également sur la vie quotidienne. Par exemple, l'allocution du président Macron, c'était jeudi sur toutes les chaînes. On en parle juste après ça.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et ce matin dans Culture Média, c'est Fabien Olicard, le mentaliste, qui est avec nous pour parler notamment de son spectacle Singularité, Philippe.
Son spectacle, mais pas seulement, je l'ai dit, vous avez 1,5 million d'abonnés sur vos réseaux sociaux, vos vidéos cumulent 130 millions de vues sur Internet. On va parler de votre chaîne YouTube parce qu'elle marche toujours, tout le monde peut y aller voir et tous les gens qui sont confinés chez eux peuvent y aller. Fabien Olicard, à la fin, il y a un D. O-L-I-C-A-R-D, si vous voulez le retrouver. On peut voir plein de vidéos du genre mentalisme dans la rue ou déduire la vie de 6 personnes par observation. Et à la demande générale, c'est pas une affaîtrie de langage, vous avez publié une vidéo samedi qu'on est déjà à presque 1 million de vues. Discours Corona, c'est vous qui l'avez écrit comme ça, Corona. Je décris la gestuelle d'Emmanuel Macron. Vous avez regardé l'allocution solennelle du président de la République à la télévision jeudi soir et vous avez découvert quoi?
Plein de petites choses. En fait, le but n'était pas de critiquer ou pas le discours, c'était de voir comment il se comportait émotionnellement à divers moments du discours.
Visuellement, il était comment?
Alors, visuellement, il était quand même dans le contrôle. Hein. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on connaît chez Emmanuel Macron. Quand il fait une allocation, il se doute en fait qu'on peut le décrypter. Donc, il est quand même dans un contrôle assez solennel. Et là, on voyait qu'il voulait envoyer de l'empathie aussi émotionnellement. Donc, il interprétait son texte plus qu'il ne le vivait.
Mais est-ce que vous avez des petits fails, comme on dit? Est-ce que vous avez eu des petits ratages visuels?
Des petits. Alors, il y en a un qui m'a beaucoup plu, c'est au moment où il parle de se rendre aux urnes. Je ne sais pas si vous voyez de quel moment je parle.
Ah, non, mais c'est les ratages que je vais faire entendre, comme je ne peux pas faire à la radio les ratages visuels.
Okay.
Je vais passer directement au décryptage fait par vous du langage verbal. Ce qui est écrit,
ça marche.
Notamment quand Emmanuel Macron nous dit qu'ici, en France, nous avons les meilleurs chercheurs et les meilleurs spécialistes. Ça devrait nous rassurer, mais vous, ça vous inquiète.
Nous avons en France les meilleurs virologues, les meilleurs épidémiologistes.
Alors ça, par contre, ça me fatigue. On va passer sur le verbal. Le mensonge passe en général par les superlatifs. Vraiment, je te jure que, je t'assure que. En général, quand on dit la vérité, on n'a pas besoin de dire ça. Mais là, il vient de dire, on a les meilleurs virologues, les meilleures personnes, les meilleurs. Trump a affirmé qu'ils avaient les meilleurs médecins et les meilleurs scientifiques et les meilleurs cerveaux. L'Australie a affirmé avoir les meilleures personnes, les meilleurs médecins, les meilleurs scientifiques, les meilleurs cerveaux, les meilleurs ce que vous voulez. Le Canada a affirmé avoir les meilleurs docteurs. Nous, on a tous les meilleurs.
Ce genre de technique, ça vous énerve, à moins que c'est vraiment la France qui est les meilleurs, mais non, si tout le monde a les meilleurs, personne n'a les meilleurs.
Oui, c'est ça. Oui, j'avoue que j'étais agacé, je m'entends dire, ça me fatigue.
Mais ouais.
Parce que c'est le cas. C'est-à-dire que, en vrai, c'est vrai, on a d'excellents chercheurs, peut-être même les meilleurs, avec l'Institut Pasteur, par exemple, qui fait un grand travail.
Ouais.
Mais c'est un argument d'autorité et ça donne un coup de canif dans le contrat de confiance. Parce qu'à partir du moment où on va entendre quelqu'un d'autre dire qu'il a également les meilleurs, on perd une forme de crédibilité. Et pourquoi utiliser cette manipulation par l'autorité plutôt que de nous rassurer, de dire le monde entier regorge des meilleurs chercheurs qui communiquent entre eux pour trouver une solution, soyez rassurés de ça. Ça aurait été chouette en fait. Pourquoi pour vouloir cantonner ça à la France et à l'État français? Et chaque État Chaque pays fait ça en ce moment, et ça, c'est une vraie petite forme de manipulation qui n'est pas du tout nécessaire dans un discours qui est fait pour nous rassurer.
On l'a bien compris. Autre moment que vous avez relevé dans le discours du président, le moment où il annonce la première mesure contraignante.
Rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes.
Le « se rendent aux urnes », pareil, dans la puissance vocale, hein, pas dans le sens des mots, était beaucoup plus timide et discret.
Il considère que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes.
Waouh, on est à deux fois plus bas avec une vraie hésitation. Je pense qu'à ce moment-là, mon interprétation est celle-ci, hein, c'est que lui-même sait que c'est compliqué de dire ça. Je pense vraiment d'ailleurs qu'il aurait dû s'abstenir parce que ce doute-là renforce l'incompréhension qu'on a du fait que tu demandes à toutes ces personnes-là de ne pas sortir de chez elles, mais par contre, elles peuvent aller voter.
Et vous dites qu'à ce moment-là, le président ne croit même pas lui-même à son discours.
Ah, il y a un vrai doute, parce que là, ce qu'on n'a pas, on n'a pas l'image. L'image, en même temps, c'est qu'on a son corps qui s'affaisse complètement, avec la tête qui se met à pencher vers l'avant. Donc, il y a un petit effondrement. Et je vais vous dire pourquoi, parce que intérieurement, je pense qu'il vit un court-circuit de logique. C'est-à-dire que l'illogisme est tellement fort que même lui a du mal à le défendre fermement parce qu'au fond de son mental, il y a cette incompréhension-là, la même incompréhension que nous on vit. C'est-à-dire que depuis ce matin ou hier soir, on voit dans les médias ce grand problème de tous les Français qui sont sortis hier au restaurant, dans les parcs, etc. Mais il faut comprendre qu'ils se battent aussi avec un problème de logique. On leur dit, mais en même temps, rassurez-vous, sortez pour aller voter, il n'y a pas de risque, on prend les précautions nécessaires. Le double discours était maladroit et lui-même, quand il le dit, on sent toute l'hésitation dans la voix qui, pour moi, est un court-circuit de logique.
Voilà, pas de double discours ici, Fabien Licard. Vous restez avec nous, Culture Média continue.